maintenant le moment d'aller faire un tour du côté de l'actu des médias. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors qu'y a-t-il ce matin dans le journal des médias?
Et maintenant que nous sommes débarrassés de Pierre Desreux jusqu'à lundi, je vous donne le menu du jour.
Ces gens sont fous.
Oui, ces gens sont fous. 299 postes supprimés à Radio France, BFM contre Télérama, les Gilets jaunes un an après, le JDD qui fait de la place aux femmes, Canteloup qui se métamorphose et Pornhub, un nouveau lieu d'influence.
Mais Cyril, on commence avec un plan de départ à Radio France.
Et c'est la conséquence des mesures d'économie que demande le gouvernement à l'audiovisuel public. 299 postes de supprimés sur les 4 780 salariés que compte Radio France. Nous devons faire des choix, a justifié la présidente du groupe public, Sybille Veil. Ce choix, c'est d'acquérir de nouvelles compétences. Dans le même temps, Radio France va créer 76 nouveaux postes, dont 50 dans le numérique. Au total, ce sont donc 236 postes qui vont disparaître. Des mesures d'économie qui risquent d'en appeler d'autres. D'ici à 2022, Radio France doit trouver 60 millions d'euros.
Le nouveau patron de BFM TV est très remonté contre un journaliste de Télérama et ça pourrait bien se terminer au tribunal.
Marc-Olivier Fogiel a décidé de porter plainte contre Samuel Gontier. Une plainte pour diffamation, selon une information de nos amis de Pure Média. En cause, un tweet du journaliste Samuel Gontier qui disait ceci.
Depuis l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel à sa tête, la ligne éditoriale de BFM TV s'affermit, écrit Samuel Gontier. Racisme, xénophobie et islamophobie à tous les étages. Et libre antenne à Luc Besson, accusé de viol.
Un message qui n'est pas passé du côté de BFM, où la décision a donc été prise de porter l'affaire devant la justice. Samuel Gontier est journaliste pour Télérama. Il tient également le blog Ma vie au poste sur le site de l'hebdomadaire. Sur Twitter, il s'est fait une spécialité de relever ce qui se dit sur les chaînes d'infos en continu et d'épingler tous les propos qui lui apparaissent. Polémique.
Il y a un an, les Gilets jaunes changeaient le cours du quinquennat d'Emmanuel Macron, un anniversaire qui va être l'occasion pour de nombreux médias de revenir sur cette crise qui a bousculé le pouvoir.
Dimanche soir, un an exactement après la première manifestation des Gilets jaunes, France 5 proposera un documentaire intitulé « La fabrique de la révolte ». Mais avec le flot d'images qui a inondé toutes les antennes depuis 12 mois, qu'est-ce qu'on peut encore raconter de nouveau? C'est la question que nous avons posée à Maxime Darquier, le réalisateur du doc. Il est interrogé par Louise Bernard.
Moi, comme les autres journalistes, on a été pris dans une immédiateté avec un mouvement qui a été soudain, qu'on n'a pas toujours très bien compris sur le moment et qui a été aussi parfois violent. Enfin voilà, on a été souvent à commenter des images qu'on voyait au jour le jour, séquence après séquence, sans forcément comprendre comment on pouvait en arriver à voir de telles images. Et l'idée de ce documentaire, c'était vraiment de revenir en détail sur comment on en a pu arriver là et comment cette révolte s'est fabriquée en détail et quels sont les mécanismes qui ont fait que cette révolte avait pris une telle ampleur dans notre pays.
Un des éléments qui aura marqué ce mouvement des Gilets jaunes, c'est la manière dont ses membres se sont agrégés et organisés sur Facebook, au point de faire du réseau social un acteur central de cette contestation, estime Maxime Darquier.
Au début de l'année 2018, Facebook est pointé du doigt à travers le monde pour la diffusion des fake news qu'il y a sur ses pages. Et à ce moment-là, en janvier 2018, Facebook choisit de modifier son algorithme pour davantage mettre en relation les personnes, pour ne pas apparaître comme un média, mais bien comme un lien entre des individus et bien un réseau social. Et ce changement d'algorithme va faire que des gens qui étaient contre la limitation à 80 ou contre la hausse du prix du carburant, mais qui ne se connaissaient pas, eh bien leur contenu va apparaître sur le fil Facebook de leurs voisins et qui partagent les mêmes colères qu'eux. Et ça, c'est un élément clé parce que du coup, ça va mettre en relation des gens qui, a priori, n'auraient jamais dû se rencontrer.
Gilets jaunes, la fabrique de la révolte, c'est à découvrir dimanche soir sur France 5.
Et puis Cyril, le JDD a décidé de bousculer son célèbre classement des personnalités préférées des Français.
Ce sera désormais un classement strictement paritaire pour en finir avec la surreprésentation de nous, les mâles blancs, dans ce top 50 de nos Français favoris. L'hebdomadaire a décidé de changer son mode de classement. Désormais, parmi les 160 personnes qui seront soumises au vote, la moitié seront des femmes et le top 50 sera maintenant découpé en deux parties, les 25 femmes les plus appréciées des Français et les 25 hommes.
Alors j'imagine que le JDD explique pourquoi il a décidé de changer de système.
Oui, il y a bien une raison et c'est d'ailleurs plus un constat qui nous frappe. En décembre dernier, seules 14 femmes avaient intégré le top 50. Pour la première fois, aucune ne figurait parmi les 10 premiers et presque toutes les personnalités féminines reculaient dans le classement. Alors, pour remédier à cette sous-représentation des femmes, le journal du dimanche a donc choisi de faire de la discrimination positive, sans doute une voie pour accélérer le changement des mentalités. Si vous voulez participer au casting des femmes et des votes qui sont seront des hommes, des femmes et des hommes qui seront soumis au vote. Vous pouvez aller sur le jdd.fr.
Lundi sur TF1, les téléspectateurs auront droit à un numéro exceptionnel de C'est Quand Loup.
La Une va faire une expérience inédite, mettre le visage des personnalités qui imitent Nicolas Canteloup sur le visage de l'imitateur. À l'écran, les téléspectateurs verront donc le visage, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qui parle avec la voix de Nicolas Canteloup et avec le crâne chauve de Nicolas Canteloup, sorte de signature de la supercherie, mais aussi une manière d'éviter d'éventuels détournements malveillants. On écoute à ce sujet Jean-Marc Dumontet, le producteur de Canteloup. Il est au micro de Louise Bernard.
On s'est dit que c'était bien qu'il y ait toujours la signature de Nicolas. Ça crée une marionnette. C'est plus tout à fait Nicolas, c'est pas tout à fait Macron ou Sarko, c'est un mélange. Au-delà de ça, effectivement, il y a l'inquiétude que si on avait fait le sosie parfait de Macron, tout à coup, 15 secondes soient balancées sur les réseaux, et à partir de là, ça créerait des troubles manifestes, parce qu'on viendrait polluer l'espace public et le discours public. Et donc, que demain, François Hollande ou Nicolas Sarkozy ou quiconque se voit prêter des propos qu'il n'a pas tenus, c'est absolument pas notre but. Notre but, c'est de prendre beaucoup de liberté avec l'info, mais c'est pas la travestir à ce point.
Et ça évite de faire ce qu'on appelle les deepfakes.
Exactement, un procédé qui doit permettre aussi à l'imitateur Nicolas Canteloup de trouver et d'imiter de nouveaux personnages qui sont parfois moins connus. On écoute Nicolas Canteloup.
Parfois, des personnages n'ont pas une voix identifiée. Je vous prends l'exemple de, par exemple, Griezmann. Si on veut traiter de Griezmann à travers un match de foot, on ne peut pas le faire parce que les gens n'ont pas identifié la voix de Griezmann. Ils ne savent pas qui c'est. Alors que si on appuie ensuite, en plus, avec une forme d'enveloppe physique pas tout à fait parfaite, parce qu'on ne voulait pas la perfection, on embarque le téléspectateur dans le propos qu'on lui soumet.
Parmi les personnalités que nous verrons lundi, il n'y aura que des hommes, car si l'équipe a essayé d'utiliser les visages de, par exemple, Laetitia Hallyday ou Ségolène Royal, ça n'a pas fonctionné. Le producteur Jean-Marc Dumontet nous explique pourquoi ce n'est que partie remise.
Si on persévère, il y aura évidemment des femmes. Nous sommes vraiment en train d'avancer pour améliorer les process, qui sont assez balbutiants, même si le résultat est totalement bluffant, et que les femmes exigent un traitement un peu particulier. Parce que vous l'avez remarqué, Nicolas n'a pas de cheveux. Or, les femmes sans cheveux, c'est assez rare. Un homme chauve, ça ne choque personne. Une femme chauve, ça veut dire des choses. Ça peut vouloir parler de maladie. On ne veut pas affubler nos personnages féminins d'une quelconque maladie. Donc, c'est à nous de trouver, pour les femmes, un petit subterfuge, une petite signature qui fera que cette question de pourquoi elle n'a pas de cheveux ne soit pas une préoccupation, ne soit pas une inquiétude, mais soit juste notre signature. Donc, on est en train de chercher.
Jean-Marc Dumontet au micro de Louise Bernard. C'est Quand Loup, la grande métamorphose. Ce sera donc lundi, une expérience pour le moment juste d'un soir.
Et nous en parlerons lundi matin car nous recevrons Ara Aprikian, le directeur général adjoint des contenus du groupe TF1, ça veut dire le numéro 2 de TF1. Cyril, une info improbable pour terminer cette semaine.
Vous le savez, depuis plusieurs mois, des protestations parfois violentes secouent Hong Kong dans le but d'obtenir davantage de démocratie. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec les médias? Eh bien, figurez-vous que ce combat dans la rue se prolonge aussi sur les réseaux sociaux où chaque camp tente de faire valoir son point de vue. Pour autant, YouTube, Facebook, Twitter ont décidé de supprimer les nombreux comptes qui faisaient passer les manifestants pour de dangereux révolutionnaires.
Mais alors voilà, ces pro-gouvernements chinois ont trouvé un autre endroit où diffuser leur message.
Absolument, et devinez où? Sur Pornhub, une plateforme de partage de vidéos pornographiques, le site X le plus visité de Chine. C'est ainsi que désormais, à côté de vidéos porno, vous pourrez tomber, si vous êtes en Chine, sur du contenu de propagande des opposants aux manifestants de Hong Kong. C'est aussi ça, les médias au sens large.
No comment. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On se retrouve lundi.